102.1 avec Jeff Fortin et Pascal CV. Le midi, on en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Précisément midi, une minute, vous êtes à l'antenne de Boulevard 101, c'est l'émission d'En Jase, ton rendez-vous du midi depuis le mois de septembre avec Jeff Fortin, Pascal CV. Numéro pour nous joindre, 418-971-1021, donnez votre opinion. BLVD.fm pour nous écouter sur la web radio et les meilleurs moments de l'émission s'y retrouvent également. L'application BLVD 101 sur l'App Store, le Google Play Store, twitch.tv/BLVD/FM. Pascal CV, t'as l'air en forme. Comment ça va?
Ça va très bien. Oui, ouais. Très en forme. Retour au gym officiel là, depuis mon arrivée. Il fallait que j'y aille.
C'est le fun, ça.
Relax. Alors, ce matin, la machine est repartie.
Parfait.
Toi, comment ça va?
Ça va super bien. Hey, parlant de gym, c'est mon entraînement cardio le mercredi soir.
Oh! Je sais pas comment tu fais ça le soir.
Hier, là, ouais, c'est, j'avoue, j'étais jamais quelqu'un qui s'entraînait le soir, mais là, pas le choix avec l'horaire de radio que j'ai. Et hier, c'est rare, ça arrive, mais moi et Christine, une fille qui s'entraîne toujours dans notre groupe, on a pogné le mal de cœur tellement qu'on a poussé.
Vous avez poussé fort.
L'enfer.
Mais c'est capoté comment? Selon ce que tu manges dans la journée, la manière dont tu t'hydrates, la manière dont tu vas avec ton sommeil et tout ça, ça joue là, sur ta performance.
Ben, en effet, j'avais pas fait de sieste dans l'après-midi parce que j'avais une rencontre. Je suis allé aider. J'étais allé au Patro Laval, puis j'en ai profité pour une petite rencontre là, puis j'en ai profité pour les aider avec l'aide alimentaire. C'est l'enfer, les besoins. C'est
ah,
fou,
ouais, même au Patro. Imagine ça, c'est un des organismes.
Oh,
là, qui,
non, non,
qui,
c'est
qui
complètement capoté.
Ça.
Fait que là, j'avais pas fait ma petite sieste. J'ai pris un petit café de plus au Patro. Fait que ça a fait que je suis arrivé à l'entraînement pas comme d'habitude.
Hey, mais ça fait toute la différence.
Mais bon, c'est fait. À matin, mes jambes le ressentent. Puis je suis content de l'avoir fait.
Oui, honnêtement, là, c'est une des plus belles choses qu'on peut s'offrir dans la vie. Parce que souvent, on va investir dans tellement de choses. Dans le linge, le maquillage pour les filles, les cils, les ça. Puis on se posera pas tant de questions.
T'as raison.
Mais vient le temps, des fois, de payer pour de l'activité physique. Puis on fait, ah, ça va peut-être me coûter cher. Hey,
ça va
c'est de l'investissement pour ta santé.
Mais hein, ça vaut tellement la peine. Puis d'ailleurs, hier, dans l'actualité, on avait le recul de la marche. Ça, j'ai trouvé ça très questionnant. Les gens qui ont arrêté de marcher, qui marchaient en pandémie, faut que les gens demeurent actifs.
En même temps, là, quand je lisais ça, moi, je me disais, ouais, mais on marchait parce qu'on n'avait vraiment rien à faire. Là.
Bon, voyons donc.
Moi, je marchais tous les jours pendant 2 heures parce que j'avais absolument rien à faire.
C'est ça. Bon, là, Pascal, je t'explique ce qui va arriver, d'accord? Là, je vais appuyer sur un bouton sur la console, puis c'est la thématique du caucus qui va partir. Surprends-toi pas, compte tenu qu'on va jaser politique, OK? Mon avocat va rentrer dans le studio.
D'accord.
Il va venir à côté de moi parce que là, on va parler avec Antonine et j'ai peur, OK? Fait que je commence par peser sur le bouton.
Le caucus.
Maître!
Le caucus.
Maître, rentrez, maître!
Voici Antonine Iaccarini.
Je pourrais pas tout dire ce que tu veux, assurément, on va te regarder et peut-être t'aider avec la syntaxe ou le choix des mots.
Ouais, exactement. Alors, Antonine Iaccarini, comment ça va?
Ça va bien, ça va bien. Ça brasse.
Excellent. Moi, j'ai pas de commentaires.
OK, fait que comment on va faire pour faire notre chronique, si tu dirais?
Mon avocat me dit que je dois pas trop parler.
OK, ça va faire de la bonne chronique, ça?
Ouais, mais attends, là, fais quelque chose. Envoie-moi quelque chose.
Ah, ouais, ben c'est ça. Dans le fond, je vais t'envoyer une mise en demeure pour que tu me parles pendant la chronique.
Ah, d'accord. Attends, je vais regarder mon
avocat. On va faire comme tout le monde.
Ben c'est ça. OK, je regarde mon avocat. Oui, ben c'est parce qu'elle fait partie de mon équipe. Oui, elle est chroniqueuse avec moi depuis le mois de septembre. Oui, Pascal, c'est ma co-animatrice. OK. Ah, il me fait un signe que je peux parler, mais il faut que je fasse attention à ce que je vais dire. On est correct? On est à l'aise?
OK, fais bien attention. OK, ouais. Ben regarde, je vais te donner une chance, Jeff, parce que je vais parler. Fait que tu peux juste hocher de la tête si tu veux, puis ça ne sera pas retenu contre toi. Ça te
non, mais ça n'a pas de bon sens.
Alors, dans les mises en demeure...
Dans même équipe,
écoute,
on se garoche chaque coup de mise en demeure. Ben oui. Hey, on est dans un dossier politique. Là. On peut-tu faire de la politique?
Ben justement, c'est fou hein, comment les enjeux politiques et les enjeux juridiques peuvent entrer en contradiction. On le voit tellement cette semaine. Donc là, on en est où là, dans les mises en demeure? La dernière en lice, c'est mise en demeure de Geneviève Hinze. Donc, Geneviève Hinze, qui était la directrice de cabinet officiellement de Marois Risky, mais qui est en fait la directrice de cabinet de Pablo Rodriguez, parce qu'il y avait comme deux chefs au Parti libéral, un peu comme chez QS, a envoyé une mise en demeure à Marois Risky pour la sommer d'expliquer les raisons de son congédiement. Parce qu'on rappelle les faits, Marois Risky a jeté à la porte la directrice de cabinet en début de semaine et sans donner aucune explication sur les raisons, outre parler d'une faute grave. Donc là, qu'est-ce qui arrive quand on lance ça dans l'espace public et qu'on n'explique pas c'est quoi la faute grave? Ben, on spécule, on imagine, on pense que c'est des affaires peut-être plus graves même.
On l'interprète. Là, il y a des textos qui arrivent avec un brownies. On dit « Ah ah, tu vois, c'est elle qui faisait en sorte que Pablo, le monde qui votait Pablo avait 100$. » Là, après ça, on dit « Ah, il y a des dépenses de l'Assemblée nationale. Ah ah, elle s'est servi de l'argent de l'Assemblée nationale pour que Pablo se promène partout. »
Donc, Geneviève Hintz considère que ça entache sa réputation, évidemment, parce qu'on peut se questionner sur sa probité, sur son intégrité, sur son honnêteté à Geneviève Hintz, qui, il faut le dire, est en politique depuis de nombreuses années déjà et qui, dans sa mise en demeure et dans ses commentaires là, cette semaine, disait qu'elle n'a jamais, évidemment, été accusée de quoi que ce soit, soupçonnée de quoi que ce soit, qu'elle a toujours été intègre dans tout ce qu'elle a fait. Donc là, maintenant, la mise en demeure a été envoyée hier soir par son avocat et on donne 24 heures à Marois Risky, donc là, il y a déjà pas mal d'heures de passer, pour expliquer les raisons du congédiement, parce que Marois Risky se taire dans un silence, elle aussi, bardée de son avocat, depuis qu'on l'a croisée là, à la sortie de sa rencontre avec Pablo Rodriguez, elle refuse de parler. Et politiquement, c'est terrible, parce que comment M. Rodriguez ou Mme Hintz peuvent se défendre de quelque chose quand on ne sait même pas qu'est-ce que c'est? Et ça, c'est juste le bout qui concerne le congédiement de Geneviève Hintz, parce que tu le disais tantôt, en plus de ça, on a les captures d'écran qui parlent qu'on a payé pour des gens qui allaient voter pour Pablo Rodriguez pendant la course à la chefferie. Je ne suis même pas certaine que les deux ont un lien ensemble pour l'instant, mais tout ça là, est mélangé parce qu'on est dans une espèce d'épais brouillard. Et moi, je pense que Marois Risky, elle doit s'expliquer. Elle ne peut pas laisser les choses comme ça. Je comprends que peut-être elle est confiante de gagner sur toute la ligne, sur l'aspect juridique, mais politiquement, c'est sûr que son parti politique en ce moment en paie le prix. Et je ne suis pas certaine qu'elle non plus va ressortir bien gagnante politiquement de tout ça. Oui, elle a une bonne image, Marois Risky, à l'extérieur, mais le fait de refuser d'expliquer, je pense qu'à un moment donné, même les gens qui trouvent qu'elle est très bonne et qui pensaient qu'elle était la justicière dans cette situation-là vont se dire « Ben voyons donc, là, à un moment donné, là, dis-le là, ce qui s'est passé. »
Ben moi, je vais être bien honnête. T'sais, dès le départ, j'étais « OK, c'est passé de quoi de gros, Marois Risky a ça dans ses mains et là, elle prend les précautions. » Fait que j'avais tendance à la protéger. Mais là, on est rendu à jeudi, midi 8, ça traîne depuis lundi. Ça n'a pas de sens qu'il n'y ait pas d'explication donnée de sa part et qu'elle se taire avec un avocat. Je veux dire, tu sais, elle n'a sûrement pas tombé sur trois meurtres qui s'est fait pour que Pablo Rodriguez passe à la chefferie des libéraux, là.
Bien là, c'est ça. Fait qu'elle espère, c'est un moment de spéculation. Puis Marois Risky, c'est une femme extrêmement intelligente. Si elle a fait ça, parce que là, évidemment, on spécule aussi sur pourquoi avoir congédié Mme Hintz sans en parler à Pablo Rodriguez. Et on se dit, bon, peut-être qu'elle a voulu faire bouger les choses, peut-être qu'elle avait levé certains drapeaux et que ça bougeait pas assez vite. Mais une fois que c'est fait, là, pourquoi garder le silence absolument? Et là, en plus, je reviens à cette histoire de brownies, là, de vote qu'on avait payé. Hier, c'était la conférence de presse de Pablo Rodriguez. On a écouté ça avec attention, tout le monde. On pensait peut-être avoir plus de réponses à nos questions, mais je suis ressortie de ce point de presse-là, je ne sais pas pour toi, avec plus de questions que de réponses.
Oui.
Le brouillard s'est épaissi. On ne comprenait pas qui a appris quoi à quel moment, mais ce qu'on a compris à travers un peu le charabia là, de cette conférence de presse-là, c'est que les textos dans lesquels on parle de brownies ont circulé depuis le printemps dernier. Et que même Mme Risky était au courant, le président du Parti, ouais, du Parti libéral.
Raphaël Primo Ferraro.
Merci beaucoup. A indiqué que Mme Risky avait été mise au fait de ces rumeurs-là depuis le printemps dernier. Donc, si c'était vraiment ça la raison pour mettre quelqu'un dehors, ça faisait longtemps qu'elle était assise sur l'information.
Exactement. Et si tu permets, on va écouter justement l'extrait de Raphaël Primo Ferraro, président du Parti libéral du Québec. Et Pascal, l'information importante qui est tombée, c'est ouais. qu'Élections Québec confirme que je peux donner des brownies pour être élu chef d'un parti politique.
Ben, la question a été posée effectivement à Élections Québec, puis ce qui vient de sortir en fait comme bon, justification ou réponse, c'est que dans le contexte d'une course à la chefferie, la loi électorale prévoit pas d'infraction pour interdire à quelqu'un de verser un don en échange d'un vote. C'est un courriel qui a été envoyé par Julie Saint-Arnaud-Drolet, qui est porte-parole d'Élections Québec. Alors, on a essayé de gratter, je pense, journalistiquement parlant, la question dans les dernières heures.
Ça, Antonine, par contre, c'est un parti politique qui te respecte, tu vas empêcher ça là, dans tes règles?
Bon, deux choses. Premièrement, sur la gestion que le Parti libéral a faite de toute cette affaire-là, c'est sûr que c'est délicat. Tu reçois de l'information, c'est un peu dur à vérifier. Moi, une conversation texto comme ça en capture d'écran, je peux t'en fabriquer une en 5 minutes. Mais de nous dire maintenant que ça justifie une enquête, mais que ça ne le justifiait pas au printemps passé, c'est juste le climat autour de toi. C'est juste que c'est sorti dans les médias. C'est la seule différence. Donc, pourquoi on a besoin maintenant de cette enquête-là? D'ailleurs, je te disais qu'on sort avec plus de questions que de réponses. Qui va faire cette enquête-là? Quand est-ce qu'on va avoir les réponses? Qui va être interrogé? On ne sait rien. Donc, pour l'instant, ça demeure aussi tout aussi flou. Là, sur la question de la légalité de la chose, c'est vrai que dans une course à la direction, les règles ne sont pas aussi serrées du côté du DGE, du directeur général des élections, que pendant une élection générale. Mais ça n'a aucun sens. Il faut absolument qu'on remplisse ce trou législatif-là et réglementaire-là parce que si on peut payer des gens pour acheter des cartes de membre puis pour voter pour un chef, ben c'est un enjeu démocratique aussi important qu'une campagne électorale. Là, la seule manière que le DGE a de, disons, pincer quelqu'un qui fait ça, c'est si, par exemple, on paye des gens et ce sont des dépenses qui ne sont pas déclarées. Parce que dans une course à la chefferie, tu dois déclarer toutes tes dépenses. Mais comment tu veux que le directeur général des élections aille enquêter au point de trouver un bénévole qui donne des 100 $ cash en dessous de la table? C'est impossible. Donc, il faut vraiment que ce soit ajouté dans la loi. Puis en attendant, politiquement, c'est intenable parce que comment veux-tu que le parti prouve que ça n'a pas eu lieu? C'est ça, là, la situation politique dans laquelle on se trouve présentement. Prouver le contraire.
Parce que sinon, on revient au temps de la commission Charbonneau et je m'explique. Tu as un grand entrepreneur qui va dire « Parfait, moi, c'est Pablo Rodriguez que je veux. Avoir, voilà 100 000 distribuer 100 pour que ça vote. » Puis après ça, quand Pablo est premier ministre, « Toc, 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 exact. Monsieur le premier ministre, amenez les contrats
vous
du ministère. »
Vous me devez quelque
chose. Oui.
Exactement. Puis ça rappelle de très mauvais souvenirs à certains libéraux hein, parce que il y a un passé. Et ça n'a jamais abouti sur des accusations, sur des condamnations. Mais bon, écoute, je suis parlé à des libéraux qui étaient là à l'époque pour savoir qu'il s'est passé certaines choses, qu'il y a un ménage qui a dû être fait après l'ère Charest. Et peut-être les années auparavant, il y avait eu toutes sortes de reportages d'enquête aussi sur toutes sortes de choses. Donc, ça fait remonter au Parti libéral vraiment des vieux fantômes. Et imagine comment c'est démobilisant. Peut-être aussi pour des libéraux qui n'étaient même pas là à l'époque, de se retrouver face à ces rumeurs-là qui sont extrêmement difficiles à nier. La moindre des choses du Parti libéral, ça aurait été de faire ces enquêtes-là et ces actions-là dès que les informations sont arrivées à leurs oreilles. Écoute-toi, là, t'es à la tête d'un parti politique, t'apprends qu'il y a ça qui circule. Hey, t'attends pas, tu dis pas, je vais espérer que ça apparaisse jamais nulle part. Tu prends les devants.
Surtout que ça apparaît au mois d'avril et que l'élection du chef est au mois de juin. Donc, tu acceptes que dans ta course à la chefferie, il se passe peut-être, parce que je le laisse au conditionnel,
il y a un doute.
Des ouais. actions qui sont somme toute légales avec le DGE, mais qui sont clairement pas éthiques pour un parti politique.
Non, tu veux t'assurer que ta course à la direction, elle s'est passée dans les règles de l'art. T'attends pas avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête que ces textos-là là, que tu as vu passer, puis qu'effectivement, tu peux pas prouver, puis t'es pas certain. Mais tu te dis, on va faire toutes les vérifications, de s'assurer dans chacune des équipes qui a le droit de solliciter, qui vend des cartes de membres dans vos équipes. On fait le tour, on fait le ménage et quitte à donner effectivement à une firme externe pour faire l'enquête. Mais la réalité, voici ce qui s'est passé dans leur tête. Ben non, si on fait quelque chose, ça va attirer l'attention et là, ça va faire les médias, alors que peut-être qu'on est capable de balayer ça sous le tapis. On va se dire la vérité, là, c'est ça qui s'est passé. On ne peut pas le prouver, on va prendre une chance de laisser ça couler.
Admettons que, finalement, tout soit dans la légalité, même si on est sur la fine ligne, OK? Est-ce que l'image du parti est entachée puis ça va faire ce que ça va faire comme problématique publique pour la suite?
Oui, parce que quand tu as un historique de quelque chose, tu repars pas de zéro quand il arrive d'autres événements, malheureusement. Le Parti libéral commençait à réussir à se sortir de cette image-là. Là, je vais réutiliser les mots de Paul Saint-Pierre Plamondon d'il y a quelques temps et d'Alex Boissonneau, autre député du PQ, qui a réutilisé le mot « corruption » hier pour parler des libéraux. Bien, c'est une étiquette de laquelle il essaie de se débarrasser depuis des années, depuis le départ de Jean Charest, et qui continuait de coller. Écoute, à chaque fois que je vois des publications du Parti libéral sur les médias sociaux, un article qui parle du Parti libéral, il y a encore aujourd'hui toujours des commentaires pour dire que c'est des croches, que c'est des crooks en bon français, etc. C'est une étiquette qui leur colle à la peau. Alors là, juste d'avoir des allégations, vraiment, là, ça les ramène là-dedans. C'est comme si l'étiquette recommençait à leur être collée au visage. Puis il faut quand même, moi je reviens à Marois Risky, elle savait bien qu'en démarrant une tempête comme celle-là, c'est ce qui allait se passer. J'ai l'impression qu'elle a voulu se dégager, elle, de tout ça, en se disant, tant pis si je mets le feu dans le bateau, moi, je débarque avec mon canot de sauvetage.
Non, en effet, c'est vraiment une opération de sauvetage individuel. En tout cas, ça apparaît ça de plus en plus. Ça ne sera pas possible, je termine là-dessus sur ce sujet-là, Antonine. Ça ne sera pas possible, le Parti libéral, de recoller les pots avant l'élection qui est dans 11 mois. Là, t'sais, là on était à 17 % pour le vote francophone. On avait frappé les bas-fonds à 4 %. J'ai l'impression que le vote francophone va chuter drastiquement parce que c'est chez les francophones qu'on se rappelle du mot corruption beaucoup lié au Parti libéral. Alors, je vois pas les libéraux être capables de se battre au coude à coude avec le PQ, là, avec ce qui vient d'arriver.
Puis surtout à voir comment la crise est gérée à l'heure actuelle, parce que, évidemment, je pense que le parti aurait pu passer à travers cette histoire de texto, parce que, comme je te le dis, moi, je ne suis pas convaincue par cette affaire-là, je trouve ça mince. Et les gestes qui ont été posés par Geneviève Vince, bien, on ne sait pas c'est quoi. Fait que là, c'est dur pour nous d'évaluer la gravité dans le silence à l'heure actuelle. On verra qu'est-ce que c'est si jamais Mme Risky sort de son silence. Mais après tout ça, même si on règle ces deux questions-là et qu'on décide qu'on passe à autre chose, bien, cette crise-là, elle a aussi fait ressortir les divisions importantes au sein du caucus. Tu sais, à l'extérieur, ça a l'air joli et beau, Marois Risky est populaire, mais on se rend compte avec cette crise-là qu'il y a pas mal de monde qui ne l'aime pas beaucoup à l'intérieur du parti. Là, il y a son chum, son mari qui est encore à l'intérieur du caucus, Greg Kelly. Bonjour l'ambiance, là. Je ne sais pas comment il va se comporter la semaine prochaine.
Et ça l'a fait ressortir la fragilité de Pablo Rodriguez. Donc ça, il n'y a rien de bon là-dedans.
Voilà.
Là. Les gens votent PQ présentement beaucoup pour Paul Saint-Pierre Plamondon. D'ailleurs, il a diminué un peu dans les sondages depuis qu'il chicane avec tout ce qui bouge. Là, Pablo Rodriguez est fragile. Puis la CAQ, on n'arrête pas de dire s'ils mettent un nouveau chef, pourrait redevenir populaire. Donc, tu sais, ça passe beaucoup par le chef, là.
Tu as tellement raison. Le chef est vraiment important dans les choix politiques qui sont faits. On est dans un système politique et médiatique qui met tellement les chefs de l'avant. Et effectivement, cette crise-là, elle a mis de l'avant les faiblesses de Pablo Rodriguez, qui est, moi, je trouve, lent à réagir, pas solide dans ses affirmations, dans ses communications. Sa conférence de presse hier, là, il essayait d'être dans l'émotion, mais c'était de mauvais ton de nous parler du fait que sa fille a de la misère à dormir. Écoutez, là, je veux bien avoir de l'empathie pour sa fille. Je suis sûre qu'elle est très gentille, sa fille, mais ça n'a aucun rapport. Pourquoi vous voulez qu'on ait pitié de vous? Dites-moi ce que vous êtes en train de faire pour redresser la situation. Et moi, si j'étais Pablo Rodriguez, j'aurais, dès le départ, commencé à marteler sans arrêt que Marois Risky dise qu'est-ce qu'elle a vu ou on passe à autre chose, qu'on puisse avancer ensemble. Comment voulez-vous que je corrige une situation si on ne me dit même pas qu'est-ce que c'est? Je trouve qu'il manquait, qu'il était un peu washy-washa, là, si vous me permettez l'expression. Et il est comme ça depuis qu'il a été élu chef. On le constate. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Marois Risky lui faisait autant d'ombrage, c'est qu'il n'est pas toujours solide comme je pense les militants du Parti libéral auraient voulu.
Hier, on écoutait le point de presse en ondes, donc on n'a pas pu le prendre au complet. T'sais, on l'écoutait avec les auditeurs en le mettant en ondes directement en live. Effectivement, il avait l'air un peu dans l'émotion, mais troublé. Puis moi, je me disais, mais il arrive presque à me convaincre qu'il n'était pas au courant de ce qui se passe par comment il se livre. Quand je l'ai réécouté après l'émission, effectivement, le bout, il parle de sa santé personnelle là-dedans, santé familiale et
blancs.
Tout ça.
J'ai les cheveux blancs. Je ne suis pas dans ma première crise politique.
Ça, je suis tellement d'accord avec Antonine. Puis j'aime ça ce que t'amènes, Antonine, en disant « Moi, dès le départ, j'aurais dit Marois Risky doit dire ce qui se passe parce qu'on ne peut pas gérer en conséquence. » Mais est-ce que il y a encore une possibilité qu'il soit zéro, zéro, zéro au courant de tout ce qui est allégué?
Zéro, zéro, c'est dur à dire, ce serait un problème. Parce que si Pablo Rodriguez ne sait pas ce qui se passe dans son propre parti, ça met en lumière une très grosse problématique de gestion et de leadership de sa part. Moi, je pense que la réalité se trouve un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'il doit être mis au courant de certaines choses. Mais je le crois quand il dit qu'il ne sait pas pourquoi Geneviève Vince a été mise à la porte, étant donné que Marwalski se terre dans un silence. Là, je veux dire, c'est fort possible qu'elle a décidé de garder le silence par rapport à son chef également. Maintenant, les captures d'écran, elles circulent depuis 9 mois. Fait que ça, tout le monde est au courant.
Hey, Antonine, ça me fait penser, puis je termine là-dessus avec Geneviève Weiss. Pourquoi André Fortin la réembauche pas? T'sais, pourquoi Pablo Rodriguez dit pas André Fortin, hey, prends-les donc, là, on va régler le problème?
Oui, en ce moment, en fait, sa réputation à Geneviève Weiss, elle est entachée. Donc, elle doit commencer par aller chercher des réponses et pouvoir commencer à se défendre. Donc là, il y a une situation au niveau des RH, là, des ressources humaines au sein de l'aile parlementaire du Parti libéral qui est vraiment très, très étrange. Donc, moi, je pense qu'il y a des choses à régler avant qu'on se rende là. Il faut le savoir aussi, là, les députés sont très ébranlés par ce qui se passe. L'ambiance n'est pas très bonne au sein des rangs libéraux. Il y en a pas mal qui se confient aussi sous le couvert de l'anonymat. Et ce qui ressort des discussions qu'on entend, les discussions de corridor, c'est qu'il y a des doutes aussi que Pablo Rodriguez est vraiment la meilleure personne pour la suite des choses. Il y a même des gens qui sont un peu frustrés que ce soit André Fortin qui a été nommé chef parlementaire, étant donné qu'il n'a même pas appuyé Pablo Rodriguez dans la course de la direction.
C'est ça, il avait appuyé Charles Milliard. Antonine, je te fais entendre un son familier. Écoute bien ça. Mais mon Dieu, Pascal, c'est un téléphone en attente? Mais que se passe-t-il? Est-ce que je serai à l'ARC? Est-ce que je suis à l'ARC? Est-ce que je suis en attente? Fais-je partie de ces 950 000 personnes qui tentent d'entrer sur la plateforme de l'ARC et qui ne sont pas capables? Et là, quand j'appelle, je tombe en attente. Suis-je cette personne-là, Antonine?
Ben oui, tu l'es.
Ah ben!
Félicitations.
Ça va bien, hein? 82 % de mauvaises réponses. 950 000, je m'étais mal exprimé, Canadiens qui, quand essayent d'aller sur la plateforme, n'y arrivent pas et doivent appeler, être dans un délai d'attente moyen d'à peu près 1h12 pour essayer de rentrer sur la plateforme. Puis seulement dans 18 % des cas, on a une bonne réponse.
Exact. Bon, moi, je fais vraiment partie de ces gens-là. J'ai dû appeler à l'Agence du revenu du Canada il y a quelques temps parce que mon compte en ligne avait été désactivé pour aucune raison. D'ailleurs, tu essaies de comprendre pourquoi ton compte a été désactivé, il n'y en a pas de raison. Là. Puis tu vois que les agents sont bien mal à l'aise de nous répondre. Là, tu attends, tu t'essayes 1 million de fois pour avoir la ligne. Puis on a d'autres choses à faire dans nos journées. Là. Puis là, t'es là. T'es en attente toute la journée. Là, à un moment donné, tu te fais déconnecter. Là, tu essaies de rappeler. Tout ça pour parler à un agent. Et là, on apprend effectivement qu'ils ont fait des tests, voir est-ce que les gens donnent les bonnes informations aux clients. Non. Dans 82 % des cas, on donne les mauvaises informations aux clients. Juste déjà vous dire, là, activez vos comptes de l'Agence du revenu puis aller sur le site du revenu puis recevoir des courriels qui disent que tu as reçu un message. Puis déjà, c'est pénible. Là.
C'est l'enfer.
Là, quand il faut que tu appelles, tu dis « Oh non, faut pas que j'appelle là. » Là, tu dis « Oh mon Dieu, j'en ai pour toute la journée. » Et là, tu sais que ça va être ardu aussi une fois que tu as la ligne téléphonique. Et tu sais, c'est pas un luxe. Là. J'essaye pas de m'acheter un voyage dans le sud là, quand j'appelle là. Je veux payer mes impôts. M'acheter mes REER, Colin.
Je vais être une bonne citoyenne.
Je ne savais même plus combien je leur devais. Je ne savais pas combien il fallait que je leur donne d'argent. Tu sais, je suis travailleuse autonome puis je dois faire des acomptes provisionnels. Bon, au fil d'année, je dois payer des impôts quelquefois dans l'année. Là, je me dis, là, combien d'argent je leur dois? pas capable de les payer. J'ai envoyé des montants au hasard pour pas payer des intérêts, n'importe quoi. C'est une situation aussi que Pierre-Yves Maxwin, le célèbre chroniqueur économique, met en lumière depuis déjà plusieurs mois. Il dit, moi, je sais pas combien je peux prendre de REER cette année parce que j'ai pas accès à mon avis de cotisation
ouais,
fédérale.
Oui, l'avis de cotisation, ben oui.
Donc, là, ça comment on peut nous charger des impôts, mais pas nous donner nos avis de cotisation? Tu sais, à un moment donné, là.
Oui, puis comment on peut nous charger des intérêts? On va te charger des intérêts sur un paiement que tu n'as pas fait, mais que tu n'as jamais eu l'information que tu n'avais pas faite parce que tu n'as pas accès à ton dossier de l'ARC. Vu que tu n'as pas accès à ton dossier, il n'est plus relié à ton adresse courriel où tu recevras un message en disant « Allez consulter votre dossier de l'ARC parce que vous avez un message important. » Et quand tu appelles, ben, la personne, soit qu'elle ne te donne pas la bonne réponse ou qu'elle ne te répond pas pendant tout. On fait quoi là, avec ça? Là? Je peux bien croire que Joël Lightbound est en train de révolutionner le gouvernement du Canada. Et là, c'est quoi? On met tous les gestionnaires dehors? On ferme l'arc pendant 3 mois? Non, ça, c'est pas une bonne idée. Les gens vont faire la file d'or.
Non, le fait avec la taxe, ça ne marche pas.
OK, on fait quoi?
Donc, bon, premièrement, j'aimerais dire, je vais citer Jacques Gourde, le célèbre député qui est dans Chaudière-Appalaches. C'est un scandale. OK? Il faut prendre le temps de le dire. C'est scandaleux dans un pays comme le nôtre que des services autant de base ne soient pas desservis. Et là, on ne parle pas là, d'attendre une heure au téléphone. On parle de 950 000 personnes qui ont dû appeler et attendre et recevoir des mauvaises informations. Donc, je veux insister sur l'aspect extrêmement scandaleux de la chose. Comment on a pu laisser la situation pourrir autant? Parce que ça, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Là. Okay? Ça fait plusieurs années qu'on se dirigeait vers cette catastrophe-là. Et là, malheureusement, comme c'est le cas dans plein de dossiers gouvernementaux et tout particulièrement sur la scène fédérale, on a tellement attendu pour agir que là, on a un feu là, est vraiment compliqué à éteindre. Et en plus, tout ça se passe dans un contexte de restriction budgétaire dans lequel on veut couper des postes dans l'appareil public, le pire timing possible. Donc, on aurait dû s'attaquer à cette situation-là il y a bien longtemps. Je veux quand même dire quelque chose. Quand j'ai réussi à avoir la ligne, là, ouais, quand j'avais plus accès à mon compte, moi, l'agent à qui j'ai parlé, il m'a donné des bonnes informations, il était très gentil. Et j'imagine cet agent-là qui était compétent et gentil, à quel point il doit se faire envoyer promener
oh non, c'est l'enfer.
Ces temps-ci.
Puis honnêtement,
ça doit être l'enfer.
Mais tu fais bien de le dire, puis on va terminer là-dessus. Soyez respectueux avec les gens qui répondent au bout de la ligne à l'ARC, à l'Agence de revenus du Canada. Ils ne sont en rien responsables des délais d'attente puis du cafouillage avec votre plateforme informatique.
Ils sont payés à se faire chier en ce moment, je veux dire. C'est la plus simple expression.
Et ils sont pas payés cher. Là, plus, dans des centres d'appel, là, tu vas gagner 18-20$ de l'heure. Donc, soyez indulgents.
Puis en plus,
avec
on a appris cette semaine qu'ils étaient ultra en ce moment sous pression. Parce que là, tout à coup, ça presse donc de régler les problèmes. Puis qu'on les chicane quand ils vont aux toilettes. Là. Fait que, soyez gentils avec les agents. Oui. Par contre, on doit être beaucoup moins gentils avec les gestionnaires et les élus qui étaient responsables de surveiller l'Agence
exactement
du revenu. C'est un échec monumental.
Un autre beau cadeau de Justin Trudeau. Hey, Colin, je te dis, il a fait de la bonne job, notre Justin. Hein? T'as beau et t'as faim.
Non, on s'ennuie.
Ouais, Anto, je te souhaite un excellent week-end parce que demain, tu n'es pas avec nous, t'es à RDI. On se reparle lundi dans le caucus qui a lieu du lundi au jeudi à partir de midi.
À la semaine prochaine.
Salut, à la semaine prochaine. C'est Antonine Iaccarini que vous entendez du lundi au jeudi avec nous dans le caucus Iaccarini. Bon, on va souhaiter... Pascal, je te souhaite vraiment, pour la fin de l'année qu'on a et l'année 2026, que tu n'aies pas à faire à l'ARC.
Avec plaisir, si jamais c'est possible que je n'ai pas à faire à l'ARC.
C'est ça, je te souhaite vraiment ça.
Ils n'ont même pas, je pense, l'option. Tu sais, des fois, tu appelles et ils disent, bon, le délai d'attente est plus haut qu'à la normale, c'est au moins 30 minutes. Voulez-vous laisser un numéro de rappel?
Ouais.
Il y a ça de plus en plus qui commence à se faire instaurer, puis je trouve ça brillant.
Ben oui, c'est exactement ce que j'ai parlé ce matin. J'ai dit, moi, l'autre jour, j'en ai profité. Me semble que c'était justement avec le ministère de la Famille là, okay, pour le gouvernement. Là. Bon, à chaque année, je faisais reviser mon dossier pour la pension que je paye, puis les allocations familiales, puis tout le kit, j'étais là-dedans. Et là, j'ai appelé, Puis on me dit, parce qu'il y avait une information que je ne comprenais pas dans mon dossier, et on m'a dit, rentrez votre numéro de téléphone et on va vous rappeler dans les 24 heures
oui,
suivantes.
Oui, puis appelle trois fois souvent.
Exactement.
Parce que ça se peut que tu manques l'appel.
Là, je me disais, Colin, c'est parfait. Tatac, j'ai mis ça. Finalement, deux heures plus tard, le téléphone sonne. Eux autres, ça a pris cinq minutes, j'ai réglé mon dossier. Merci, bonsoir.
Au lieu de niaiser.
J'ai pas eu à attendre pendant une heure et quart. T'attends. C'est tellement ouais. un excellent point. On a eu des bons textos par rapport à ce qu'on a jasé. Puis on a un texto ici de David qui dit, ça profite à qui tout ça en parlant de la chicane au niveau des libéraux? C'est une bonne question, tu sais, parce que ça va être tough pour Marois Risky que ça profite à elle avec le silence puis avec comment ça s'étire dans le temps.
Je le sais pas.
Je à sais qui pas, ça c'est... profite, je le sais pas. Chose certaine...
Sûrement, c'est raison pour que ça profite dans,
exactement.
Dans le temps.
Exactement. Chose certaine, en termes politiques, ça peut profiter à la CAQ. Enfin, les réflecteurs sont mis sur quelqu'un d'autre.
Oh oui.
Hey, François Legault
doit se taper dans les mains.
Oh, François Legault doit avoir pris une bonne bouteille de vin hier.
Puis regardez ça, les deux pattes croisées.
Oui, les deux pattes croisées.
En même temps, c'est pas le temps d'y croiser les pattes sur le pouf.
Non, non, c'est le temps de travailler, t'as entièrement raison. Parlant de travail, parlant de François Legault, tu te souviens de sa clique?
Oui.
T'sais, on va avoir le rapport en février de la commission Galant. Tu vas nous raconter après la pause que ça va pas mieux chez Hydro-Québec. Puis on savait oui. qu'au niveau de santé numérique, c'était vraiment catastrophique également. Bien, c'est une connaissance d'Antonine Niaccarini, Édouard Renac, qui est cofondateur de Trampoline, qui a été sélectionné parmi les 100 meilleures startups canadiennes les plus prometteuses en termes, justement, d'infrastructures informatiques. On va parler avec lui après la pause parce que lui, il a plein de bonnes idées. Puis il veut parler au gouvernement pour dire, « Hey, checkez ça, là. On pourrait faire complètement différent dans les appels d'offres. Ben, on n'arriverait pas avec des saclics.
Puis des dépassements de coûts, puis des échecs.
Oui, puis des échecs. Puis ça ne sera pas toujours les mêmes grosses compagnies puis les mêmes gros consortiums qui auraient les contrats.
Puis là, s'il parle aux médias, Jeff, c'est parce qu'il n'a pas réussi à parler.
Il n'a pas dû réussir. C'est exactement ce qu'on va lui poser comme question. Puis on veut savoir ce qu'il a derrière la tête. Monsieur Édouard Renac qui sera avec nous après la pause. Puis après ça, on fait un gros tour d'actualité. C'est une grosse journée hein, d'actualité.
Oui, une grosse journée différente de politique.
Oui, c'est ça. Il n'y a pas juste le PLQ aujourd'hui là, qui fait la manchette. On parle de tout ça à l'émission On en jase après cette courte pause sur Boulevard 102.1.